Bonjour Jean-François Froger.
Bonjour Pierre-Éric.
Nous nous retrouvons donc pour une seconde émission. Nous engageons sur une dizaine d'émissions pour traiter le premier récit de la création dans le livre de la Genèse. Vous nous avez fait une introduction, un petit peu comment inscrire la parole de Dieu dans la tradition, qu'est-ce qui est dit quant à l'inspiration de ce texte, et je reviendrai peut-être juste sur ce point, et qui va engager notre conversation d'aujourd'hui, à savoir que ce texte, finalement, s'inscrit dans une culture, ce texte nous a été transmis par la bouche de Moïse, mais en même temps, il revêt une dimension d'intemporalité, donc au niveau des principes. Alors ce sont ces principes que nous allons essayer d'aborder aujourd'hui, avec ce premier mot, Bereshit, au commencement. Alors auparavant, peut-être pourriez-vous nous dire quelque chose sur le découpage en chapitres et en versets, qui lui est relativement récent, de ce texte que nous connaissons. Alors qu'est-ce qui découpe le plus naturellement ce texte de la Genèse ?
Oui, c'est un problème de lecture et c'est important de voir. Donc le Pentateuque, que vous rappelez, c'est 5 livres. Mais chaque livre, évidemment, est divisé en paragraphes. Malheureusement, ce ne sont pas les paragraphes des éditions de la Bible actuelle, puisque les chapitres et même les versets sont une invention récente, enfin du Xe siècle après Jésus-Christ. Mais le texte avait une division naturelle, donc il s'agit de retrouver. Simplement, les anciens n'avaient pas même les mêmes idées que nous. Par exemple, nous, on essaye de faire des chapitres à peu près la même longueur. Bon, on ne peut pas avoir un chapitre de 3 pages et un chapitre de 50 pages. Ça ne se fait pas. Mais chez les anciens, on peut très bien avoir une section de 25 lignes et une section de 3 pages. Donc c'est pas la longueur qui va découper le texte. Alors qu'est-ce qui découpe le texte ? Dans la Genèse, qui s'appelle évidemment en hébreu Bereshit, qui veut dire au commencement, mais nous y reviendrons, il y a un découpage tout à fait naturel que tout le monde peut retrouver facilement. C'est il y a 3 parties distinctes dans la Genèse. Il y a le récit de la création qui va de Genèse 1:1 au chapitre 2:3. Après, il y a 10 récits d'histoire des patriarches, de 2:4 à 50:26. Donc c'est toute la Genèse qui va être inscrite, le texte de ce qu'on appelle le second récit de la création. Ensuite, il y a un récit de l'histoire de Moïse comprenant, alors cette fois-ci, Exode, Nombre, Lévitique, Deutéronome. Donc les 3 grandes parties divisent la Torah, les 5/5, comme disent les Hébreux. Mais à l'intérieur même du récit de la création que nous étudions, il y a un découpage qui est donné par un refrain, parce que c'est aussi du style oral, avant d'être du style mis par écrit. Et en hébreu, c'est « Elle est Toledot ». Voici Toledot, c'est-à-dire les générations. C'est sur le verbe « yalat » qui veut dire « enfanter ». Alors, en général, on trouve dans les traductions « voici l'histoire, voici les générations, voici les engendrements ». C'est toujours le même mot, en fait, en hébreu. Et donc, on a cette division qui est importante parce que on voit que tout est fait à partir de l'idée d'engendrement ou d'enfantement. Yalad, Toledot, c'est un féminin pluriel. Donc c'est un mot abstrait, alors qu'on peut traduire littéralement. Voici le décompte des générations. Mais on peut dire voici l'histoire, parce que le décompte des générations, ça va être l'histoire. Autrement dit, nous, notre concept d'histoire ne comporte pas immédiatement le fait d'un récit sur la généalogie des gens. Mais les anciens, pour eux, l'histoire, c'était d'abord la généalogie. Et cela nous enseigne une chose très importante sur la façon dont ils concevaient l'homme. L'homme est d'abord un être généalogique. Il s'inscrit dans une lignée. Et c'est pourquoi, pour raconter l'histoire et ce qui s'est passé, ça va être dans l'histoire des générations. Vous voyez, nous, on a deux mots. Eux n'en ont qu'un pour dire ces choses-là. Hein? Par exemple, même dans le Nouveau Testament, nous allons avoir livre, au début de saint Matthieu, livre des engendrements de Jésus, le Messie, fils de David, fils d'Abraham. Alors pourquoi on dit ça? Mais justement, puisqu'il s'agit de son histoire, on va dire, en très résumé, deux des termes de sa généalogie qui sont David, Abraham. Mais bien sûr, il y a par exemple une liste généalogique qui va jusqu'à Abraham et même jusqu'à Adam. En 42 générations, c'est évidemment 3 fois 14. Donc c'est voulu, c'est un genre littéraire qui a du sens. Donc, par exemple, la première phrase de l'évangile est un résumé. Jésus, fils de David, fils d'Abraham. Mais ce résumé, lui-même, va s'appeler quand même Sefer Toledot, livre des générations. Et le grec traduit Biblos Genesios. On entend le mot Genèse, mais qui est traduit livre des générations aussi. Alors le Sefer Toledot, c'est l'histoire racontée. Pourquoi? Parce que on va raconter en comptant les générations. Et par exemple, il va y avoir 10 patriarches d'Adam jusqu'à Noé, 10 de Noé jusqu'à Abraham. Voilà. Et donc, on verra que ces nombres sont pas artificiels, ce sont des mnémotechniques, une mnémotechnique, et qui fait entrer dans l'idée de ce qui compte, c'est la succession des générations. Bon. Et nous avons donc dans la Genèse 10 fois cette formule. Donc, et ça va faire des séquences dans la lecture et qui vont être utilisées ensuite dans la lecture liturgique à la synagogue. Et on a encore la série des lectures qu'on faisait à la synagogue avec la haftara correspondante dans les prophètes. Et donc ça correspond pas tout à fait à notre point de vue en chapitre et en verset. Voilà. Mais le gros problème, c'est que comment parler d'Adam qui n'est pas dans une série généalogique puisqu'il est le premier.
Exactement.
Donc il n'a pas d'histoire. Donc c'est un être anhistorique d'une certaine façon, puisqu'avoir de l'histoire, c'est avoir des ancêtres, être dans une lignée. Alors Jésus est parfaitement historique, il est dans une lignée. Adam n'est pas historique, est le premier.
Voilà, donc
on va être dans l'ordre des principes. Mais par analogie, on va dire, par exemple en 2-4, et donc c'est bien une commencement et une césure et un commencement d'un nouveau chapitre, on va dire, telles sont les origines, mais Toledot, les engendrements, des cieux et de la terre. Mais évidemment, les cieux et de la terre, c'est pas des personnes, donc on peut pas parler de génération. Mais on va utiliser l'abstrait qui veut dire aussi l'histoire, alors, mais c'est pas une histoire chronologique, on le sait tout de suite. Puisque sinon ça rentrerait dans un décompte généalogique. Or c'est impossible, donc il s'agit d'autre chose. Vous voyez ? Donc on est assuré tout de suite que le récit de la création n'est pas un récit historique. Donc on est délivré d'un grand souci. Hein. Ah mais est-ce que c'est de l'histoire, est-ce que c'est pas de l'histoire ? Mais pour comprendre l'histoire et la suite généalogique, il faut une donnée primitive, un principe, et c'est ça qui va être expliqué dans le récit de la création.
Nous écoutons à nouveau, comme lors de notre première émission, un extrait de l'oratorio d'Händel, Balthazar. Jean-François, nous reprenons. Donc ce que nous écoutons nous parle, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas la langue de la cantatrice, donc du prophète Daniel en Babylonie.
Oui, mais c'est en anglais parce que c'est Handel.
Voilà, exactement. Donc vous nous avez expliqué que le découpage le plus naturel de ce texte de la Genèse s'articulait autour des engendrements. Alors quel serait le premier principe que l'on pourrait tirer du récit, puisque vous nous parliez des principes en termes de, justement d'engendrement, voilà, ce qui précède Adam et ce qui précède peut-être même aussi l'engendrement du ciel et de la terre. Alors donc ce premier mot même de la Bible qui nous parle d'un commencement, Bereshit, alors comment pouvons-nous inscrire ce premier principe, quel est-il, quelle forme a-t-il, et voilà, en quoi sommes-nous concernés?
Oui. Donc nous remontons à l'origine, un peu comme les saumons vers la source. C'est-à-dire, c'est l'idée d'engendrement qui préside à la notion d'histoire. Mais alors, le problème, c'est que avant l'homme, il n'y a pas d'engendrement, puisque on va voir dans ce récit justement le premier homme qui n'a pas de généalogie. Bon. Donc ce qu'on va réciter, ça n'est pas proprement parler un enfantement, puisqu'il n'y a pas de mère, il n'y a pas d'enfantement. Bon. Mais on va utiliser le mot histoire, donc par analogie. L'analogie, c'est qu'il y a une ressemblance, c'est que dans l'engendrement, il y a quelque chose qui précède ce qui paraît, donc le père et la mère pour un enfant, et là, il y a quelque chose qui précède, en quelque sorte, mais ontologiquement, ce qui paraît, à savoir le monde. Mais c'est bien un usage analogique du terme, ça n'est pas direct, il n'y a pas d'enfantement. Donc ça, c'est très important de bien comprendre ce saut. Et donc, on va, d'ailleurs, le texte hébraïque parle de Bereshit, au commencement, mais qu'on pourrait très bien traduire au principe, comme fait d'ailleurs l'évangile de Jean, Enarché en grec, hein, Batkan Maya en araméen. Bon, c'est dans le principe. Donc ça n'est plus historique, bien sûr. C'est transcendant. Donc quel est le principe qui permet à Dieu de créer et nous de comprendre quelque chose à la création? Et donc la première phrase, qui demandera une émission à elle toute seule, ou presque, c'est « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, et la ténèbre recouvrait l'abîme, et l'esprit de Dieu, c'est Ruach Elohim, palpitait au-dessus des eaux. » Ça, c'est le titre général de tout le récit. Le titre est à comprendre pratiquement en dernier, parce que il résume en lui une structure. Donc, mais regardons le texte. Il commence par une parole très étonnante. Hein, c'est Vayomer Elohim, Yehi Or, Vayehi Or. Et Dieu dit qu'il y ait de la lumière, et il y eut de la lumière. Donc maintenant, je m'arrête là, parce que la question que vous posez est tout à fait judicieuse. Quel est le principe, là? Eh bien, on place au principe de toute chose, en tête, Bereshit, parce que ça veut dire aussi en tête, roche, c'est la tête, hein, et en haut, parce que la tête, c'est ce qui est en haut, ce qui est au sommet, une parole divine. Et Dieu dit, c'est posé comme principe que la divinité parle et que sa parole fait exister la chose. Alors, c'est ça qu'il nous faut comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire que la divinité parle et que sa parole fait exister la chose? Je fais simplement une petite incise ici, c'est que dans le texte hébraïque, nous avons Bereshit bara Elohim, Vayomer Elohim, et Dieu dit, et Dieu dit. Et donc on traduit constamment Dieu. Moi je traduis divinité, parce qu'il y a une ambiguïté dans le mot Dieu, qui pour nous, dans la culture actuelle, qu'on soit athée ou croyant, d'ailleurs c'est la même chose, on en fait un personnage, ce qui est faux de toute façon. Hein, c'est pas un personnage. Peut-être l'idée de personne convient à la divinité, hein, au moins la tri-personnalité, mais ça, c'est une autre affaire. Donc, on en fait un personnage. Dès qu'on dit Dieu, c'est comme s'il y avait un bonhomme quelque part au fin fond du ciel. Il n'y a rien à faire, il y a cette représentation. Elle est évidemment fausse. Et en plus, ça ne traduit pas bien ce que veut dire Elohim. Vous savez qu'il y a plusieurs termes pour nommer la divinité dans l'écriture. Donc je le rappelle. Il y a d'abord ce mot, justement, Elohim, qui est un pluriel. Le singulier, ça serait Eloah, qui est un nom féminin. Et il y aurait un autre nom qui est derrière encore, qui est elle. Donc il y a des subtilités en hébreu qu'il n'y a plus du tout en français. Alors c'est un abstrait, comme ces pluriels-là. Alors l'abstrait qui concerne Dieu, c'est effectivement la divinité ou la déité, on pourrait traduire. Mais ce serait plus spécial encore. Donc la divinité, c'est neutre parce que on ne sait pas encore qui elle est. Alors évidemment, quand on va lui donner un nom propre, ça sera Yod, He, Vav, He. Comme chacun sait, c'est le nom qui va être révélé à Moïse, qui était connu bien avant. La révélation à Moïse, c'est la révélation de son sens. Parce qu'on peut connaître le nom de quelqu'un, par exemple Dieu, sans savoir ce que ça signifie. On l'appelle comme ça. Bon. Mais là, ça a du sens. Dans l'écriture, tout a du sens. Donc ici, il s'agit de la divinité. Et au niveau du principe, parce que donc le créateur, si on veut, mais l'idée de création est une idée originale, c'est vraiment une idée propre à Moïse, ça ne se trouve nulle part ailleurs. Chez les Grecs, il n'y a pas de création, il y a un démiurgos, un démiurge qui met de l'ordre dans une espèce de chaos initial. Et en Inde, la même chose, il y a le divin Brahma qui s'éveille, ou qui etc. Donc, et qui n'est pas vraiment distinct du monde. Il est transcendant, mais pas vraiment distinct. Tandis qu'ici, on va nous parler d'une divinité très spéciale. Et ce qu'on dit d'abord, c'est qu'il parle. Avant quoi que ce soit. Et c'est ça qu'il nous faut regarder. Pour nous qui parlons, parce que l'analogie, comme on a dit dans la première émission, il y a parole humaine, parole divine. Et Dieu dit que la lumière soit. Ah bon, qu'est-ce que ça veut dire en langage divin? Mais c'est d'abord des mots humains. Mais parler, c'est d'abord un acte humain pour nous. Et donc, il faut étudier ça pour comprendre qu'on puisse l'attribuer à la divinité. Et qu'est-ce que ça signifie d'attribuer ça à la divinité? Parce que ça nous définit une divinité très spéciale quand même. Nous qui parlons, dire ne fait pas exister les choses. Sauf dans les rêves, la magie. Mais nous dire, ça désigne les choses. Et c'est déjà beaucoup. Donc l'analogie du mot parole est donc posée. Autre chose, désigner une chose, autre chose, la faire exister parce qu'on parle. S'il y a quelque chose de similaire entre Dieu et l'homme, donc, ça c'est le principe, c'est le fait qu'il parle. Il y a donc ici un principe posé d'emblée, évidemment, c'est ce principe qui va permettre ensuite d'expliciter la connaissance, et le principe même restera à jamais non défini. Parce que quand on pose un principe, c'est pour expliquer le reste, c'est comme les axiomes en mathématiques, mais vous n'allez pas démontrer un axiome, c'est absurde, c'est l'axiome qui permet de démontrer le reste. Alors on peut en changer à l'occasion, parce qu'il y a un choix initial. Donc ici, il y a un choix que le texte nous propose, à savoir que la divinité, c'est ce qui parle. Analogiquement à la parole humaine. Donc ça met immédiatement en relief que l'homme, c'est d'abord ce qui parle aussi. Vous voyez ? Donc ça pose d'emblée la parole comme principe de la révélation. Alors, remarquons bien qu'on ne pose pas ici le principe de l'être. Ça va être Aristote dans une considération quasi expérimentale du monde sensible. Lui, il voit des choses. De là, il va abstraire l'idée de substance. Et quand on dépouille la substance de toutes ses qualités, on va trouver l'être. Quatrième degré de l'abstraction. Ici, on ne parle pas d'abstraction. On parle d'analogie. Et on parle d'une chose qu'on connaît parfaitement, nous. Enfin, parfaitement. Que nous vivons, en tout cas. C'est de parler. Il n'y a pas d'homme qui ne parle pas. Bien sûr, il y a des muets, bon, mais on sait que c'est une maladie.
Et puis on nous parle de relation. Donc, et donc, dans un acte.
La parole, c'est d'abord une relation. Parler tout seul, c'est propre de la folie. Bon. Donc, il y a ici une racine métaphysique qui est tout à fait différente de la racine métaphysique de la pensée aristotélicienne ou grecque. Donc ça va poser des problèmes quelques siècles plus tard. Et donc la parole, en tant que telle, est prise comme principe d'intelligibilité, et non pas l'être, cette chose totalement abstraite. Eh bien, pour la révélation, ce qui est premier, donc, c'est la parole, et la parole divine. La révélation ne peut d'ailleurs qu'être une parole adressée à l'homme. Et la divinité est d'abord ce qui parle à l'homme. Donc nous donnons une définition a priori, puisqu'elle est posée comme principe. Qu'est-ce que cette divinité? Ce qui parle à l'homme. Donc tout ce qui parle pas à l'homme, c'est pas Dieu. Oui. Donc les dieux abstraits, les êtres infinis et tout ça, ça cause pas. Mais c'est pas Dieu d'après la Genèse. Il faut donc examiner le fait donné a priori que nous parlons. Et chacun sait qu'il parle parce qu'on lui a parlé. Et qu'aucun homme n'est l'inventeur de la parole. Je ne peux pas m'attribuer ma propre parole. C'est parce qu'on m'a parlé que j'arrive à parler. Et chaque homme peut le dire. Et on peut remonter de la généalogie et on trouve justement quelque chose qui n'est pas généalogique, qu'on va nommer Adam. Mais lui, on lui a pas parlé, alors comment se fait-il qu'il va parler? Ça veut dire, et pourquoi on nous parle d'Adam, c'est que le principe de la parole dans l'homme, c'est son rapport à Dieu. Dieu étant, justement, ce qui parle à l'homme. Donc ça veut dire que l'homme est constitué par son rapport à la divinité, puisqu'on l'attribue. Donc voyez que Dieu n'est pas étranger à l'homme, a priori, dans ce texte. C'est pas un Deus ex machina qui fait une création, on ne sait pas comment, en causant dans les sphères extra-galactiques. Pas du tout. C'est au cœur même de la parole que nous allons trouver ce qu'est la divinité.
Et puis cela dit, ce que vous nous redirez plus tard, c'est que l'ensemble du texte de ce premier récit de la création est là pour faire de l'homme. Voilà. Ah. Même si on commence par les cieux, la terre, etc. L'homme est déjà le...
c'est le but.
La finalité de cette parole de Dieu, c'est de faire de l'homme.
Bien sûr. Et c'est, d'ailleurs, le texte tout entier le dit, puisque on voit les six jours qui se déroulent, et à la fin du sixième jour, c'est-à-dire à la fin de la création, qu'est-ce qui paraît? L'homme. L'homme complet, l'homme achevé. Donc il faut six jours, on verra en quoi ça consiste, pour faire de l'homme. Donc, mais dès le premier mot, on voit que faire de l'homme, c'est la divinité qui parle.
Poursuivons notre découverte de l'oratorio d'Endel.
Thank you.
Jean-François, nous venons de voir que le premier principe qui préside à la création, c'est que Dieu parle. Notre Dieu parle, voilà. Ce qui définit la divinité. Et donc il parle d'une manière spécifique donc à l'homme. Donc l'homme aussi, analogiquement, est une personne qui parle. Voilà. Nous sommes à l'image de Dieu, nous le verrons, nous le développerons un peu plus loin. Donc, et puis nous avons vu aussi qu'avec Adam, donc puisqu'Adam n'a pas de paternité, on pourrait dire, en tout cas biologique.
Il n'a pas de généalogie, ou de biologique,
biologique. Donc eh bien, pour lui-même aussi, ce qui le fait naître, c'est cette parole que Dieu lui adresse. Alors plusieurs questions me viennent à l'esprit. Et puis nous avons un petit peu préparé aussi pour essayer de structurer notre entretien. Alors déjà, je pense que beaucoup de nos auditeurs pensent à cette parole de Saint Jean. Au commencement était le Verbe, donc vous nous direz quelque chose. Et puis peut-être dans la tradition aussi rabbinique. Mais auparavant, comme le texte de la Genèse nous parle de lumière, voilà, cette première création de Dieu, alors en quoi, quel lien pouvons-nous faire entre cette lumière que Dieu crée, en parlant, et Dieu dit, et quel est le rapport donc avec cette parole créatrice de Dieu qui est adressée à l'homme?
Oui, donc la parole c'est « Et Dieu dit qu'il y ait de la lumière, et il y eut de la lumière ». Alors on verra ensuite le texte. Mais donc il nous faut approfondir notre notion de parole humaine. Et cette parole humaine, donc ses conditions, a des conditions. Sa condition, c'est une relation. Une relation qui se réalise dans le monde sensible par le langage. Donc il faut d'abord bien distinguer parole et langage. Des langages, donc des langues, par exemple, il y en a des milliers dans le monde. Mais toutes ces langues ne sont que la manifestation contingente, historique, géographique, du fait que l'homme parle. Tout homme parle. Alors des langues très différentes, ça c'est avec Babel qu'on pourra en voir la raison. Et donc nous avons cet usage inné, et transmis aussi par notre génération. Et c'est le moment de voir et de bien distinguer le fait de la généalogie chronologique qui est liée, en quelque sorte, à l'espèce. Et c'est vrai de tous les animaux aussi. En gros, il n'y a pas de génération spontanée. Donc il y a eu un père et une mère, et même quand on est évolutionniste, on remonte alors jusqu'à une cellule primitive, mais il y a de la généalogie tant qu'on en veut. Et avant, on ne sait pas. Mais nous n'avons pas simplement participation à une espèce animale, qui serait Homo sapiens sapiens des biologistes, mais nous sommes munis aussi d'une nature humaine. Et la distinction entre espèce humaine et nature humaine est capitale. Elle n'est pas assez faite de nos jours, d'où beaucoup, beaucoup de problèmes qu'on n'arrive pas à résoudre. Parce qu'il y a des choses qui tiennent à l'espèce, et des choses qui tiennent à la nature. Et par exemple, il est dans la nature de parler, ça ne tient pas à l'espèce. Parce que beaucoup d'espèces, par exemple, communiquent par des langages. Mais on ne peut absolument pas réduire la parole humaine à un simple langage. Alors c'est ça dont il nous faut prendre conscience. Pourquoi ? Parce que nous communiquons avec des mots, quelle que soit la langue qu'on parle. Et les mots, il faudrait prendre le temps de bien examiner cette chose, sont des classes analogiques. Et ça, aucun animal ne fait de classe analogique. Ça, c'est propre à l'homme. Une classe analogique, c'est utiliser la capacité d'abstraire une similitude entre plusieurs objets et de coller un seul mot avec des objets qui sont vraiment très différents. Je prends le mot arbre, parce que c'est mon exemple principal, puis ça va revenir dans la Genèse, l'arbre. Et je vais appeler arbre beaucoup de choses qui ne se ressemblent pas, sauf en un point, qui est la définition quiditative de l'arbre. Mais quand je regarde un noisetier et un cèdre, comment puis-je mettre un seul mot sur ces deux choses-là? Eh bien, c'est très simple, parce qu'il y a une similitude, qui est savoir un tronc ligneux des branches. Maintenant, les formes sont tellement différentes. Mais vous comprenez bien que ça, c'est un travail de l'intelligence humaine qui est capable d'abstraction. Le moindre mot témoigne d'une chose très extraordinaire qui est l'usage de la négation. Pourquoi ? Parce que je vais mettre le noisetier dans les arbres, mais la pierre qui est à côté, je dirais non, ça c'est pas un arbre, c'est autre chose.
Je l'exclus.
Donc ça exclut. Une classe analogique, ça veut dire il y a des choses qui rentrent dedans, et puis il y a des choses qui n'entrent pas dedans. Donc il me faut une relation d'appartenance qui fait que ça appartient ou ça n'appartient pas. Donc n'importe quel mot contient et rejette, si on peut dire. Et donc utilise la négation. Eh bien, utiliser la négation, c'est une opération très singulière qui s'appelle la logique. Et tout le monde fait de la logique sans le savoir, souvent très mal d'ailleurs, parce que c'est embrouillé, mais quand on peut débrouiller la chose, on peut mettre de la clarté. Et il y a deux instruments qui vont tenir d'ailleurs à la nature humaine, l'analogie et la logique, qui vont être les instruments de l'intelligence qui nous font ressembler à Dieu. Bon, mais n'allons pas trop vite. Cette parole qui use de mots pour s'adresser à un autre homme, la parole n'a de sens que si on parle à quelqu'un. Et c'est bien parce qu'on nous a parlé qu'on parle. Donc la parole, pas le langage, qui n'est qu'un outil, mais la parole c'est tout à fait autre chose. C'est une relation, mais cette relation n'est pas individuelle. Bien sûr que en ce moment, je vous parle et je parle aux auditeurs, mais je parle à n'importe quel homme en fait. Je parle à tous les hommes, tous ceux qui veulent bien écouter. Donc cette relation de parole, elle a autant de termes que d'auditeurs et même que de locuteurs. Donc c'est une relation extrêmement complexe. Et tout ce que je dis, je dois pouvoir le dire à tout homme, même s'il faut traduire dans une autre langue. Et reconnaître l'autre comme un homme, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'on se reconnaît ? C'est pas simplement les hormones comme d'une espèce à l'autre, mais c'est que je peux lui parler. Je peux parler, c'est un homme. Il peut me parler, je suis un homme. Et c'est pourquoi d'ailleurs, quelqu'un à qui on refuse d'adresser la parole, c'est un déni de son humanité. C'est la pire injure qu'on puisse faire. C'est de ne rien dire. Parce que même injurier quelqu'un, c'est grave, mais c'est encore lui adresser la parole, c'est encore le reconnaître comme un autre homme. Si je n'ai même plus l'injure, mais le silence, je lui dénie l'humanité.
Lui dénier son altérité.
Je lui dénie l'humanité.
D'accord.
Parce que l'altérité, un chien, il est vraiment autre, hein. Ben, je vais pas lui causer. Peut-être je vais lui causer, mais alors ça veut dire que je l'humanise un peu. Et d'ailleurs, les animaux domestiques, on les humanise tellement qu'ils ont on a l'impression qu'ils vont faire partie de la famille. C'est un peu exagéré, mais enfin bon. Et je ne suis un homme que si les autres me reconnaissent comme tel, c'est-à-dire si ils acceptent de m'adresser la parole. Donc la parole, je vais dire, c'est le contenu, la parole, pas le langage, pas les mots. Vous voyez, j'essaye de bien définir ce que c'est que cette parole. C'est, alors j'appelle ça, d'un terme technique, l'essai in, ce qui est constitutif de la relation qui constitue l'homme collectivement. Donc, vous voyez bien que Adam, ça va désigner autre chose qu'un individu. On va pouvoir individualiser au niveau imaginaire. Mais en fait, ça désigne l'homme avec un grand H. Tout homme.
L'homme générique.
C'est-à-dire la relation qui a pour terme tout homme. Et cela n'est pas temporel. Si donc on dit que la divinité parle avant que l'homme ait même apparu, parce que ça c'est le premier jour, là, et Dieu dit que la lumière soit. Oui, mais ça veut dire que c'est la condition sine qua non pour que l'homme paraisse. C'est que le contenu de la relation qui constitue l'homme et le fait paraître est divin. Donc, ce que le texte nous dit, par « et Dieu dit que la lumière soit », ça veut déjà dire que ce qui constitue la nature humaine, c'est divin. Ça ne veut pas dire que l'espèce humaine est divine, loin de là. Elle est créée, bien sûr, mais c'est ce qui va spécifier l'homme, c'est sa relation à la divinité. L'homme se reçoit comme tel de la divinité, mais la divinité n'est pas l'un des hommes. Pourquoi ? Parce qu'il parle avant l'homme. Il est la source de la parole. Voilà. Autrement dit, si deux hommes peuvent se reconnaître comme tels et qu'ils peuvent se parler et que cette possibilité les transcende tous les deux, ça montre qu'ils sont en fait dans la divinité, même s'ils l'ignorent. Et la divinité est donc le principe même de l'humanité, ce qui lui permet de parler, Bereshit. C'est au commencement, c'est au principe. Cela n'est évidemment pas individuel ni collectif. Cela est personnel. Parce qu'adresser la parole à quelqu'un d'autre, c'est « je » et « tu ». Donc, la personne s'institue, comment ? Dans le face-à-face. Et le mot « personne », »,« persona », c'est le masque, mais c'est la face, en fait. Et en hébreu, quand on dit qu'on est en présence de quelqu'un, on dit « face-à-face », »,« panim les panim ».
Moïse, parler à Dieu face-à-face.
Comme à un ami, voilà. Mais bien sûr,
et son visage...
il se pourrait qu'il nous arrivât la même chose.
Son visage était lumineux, nous dit-on.
Et voilà, et son visage rayonnait la lumière. Nous y sommes. Voyez, l'être en présence de l'un de l'autre est l'acte d'inhabitation de la divinité, mais pas dans l'un ou dans l'autre, dans le fait de la relation. Eh bien, ce qui est dit au principe et à l'origine de tout, cet acte de face à face humain, c'est là où brille la lumière. Et immédiatement, vous avez... fait mémoire de ce récit qu'on va trouver bien après, de Moïse qui parle face à face avec Dieu. Dieu qui s'exprime dans une lumière du feu, du buisson. Mais la face de Moïse devient lumineuse. Mais c'est de cette lumière qui est le face à face divin. Et voilà ce dont on parle dans la première phrase du récit de la création. Donc, ce qui va fonder toute la création de l'homme qui va demander 6 jours d'explicitation, c'est cette lumière qui est le face-à-face de l'homme avec Dieu, qui nous parle.
Et la rencontre donc avec une autre personne aussi, dans l'utilisation d'une parole et non du langage, est aussi présence.
Voilà, présence et donc potentiellement lumière. Mais évidemment, pour nous, ça va souvent être mélangé de ténèbres. Et c'est pourquoi on va d'ailleurs après... Le texte le dit, mais nous l'expliciterons une autre fois. Et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Pourquoi ? Parce que pour nous, c'est d'abord mélangé. On le verra. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc il ne s'agit pas des photons. Il ne s'agit pas du rayonnement résiduel du fond de l'univers à 3 degrés Kelvin. Vous comprenez bien que ça, c'est une lecture littérale stupide. Et qu'il ne faut pas faire ce genre de concordisme, après en avoir fait d'autres d'ailleurs. Hein. Mais c'est quelque chose de beaucoup plus profond, et qui est le principe même de notre humanité. Et c'est ainsi la prise de conscience de ce qui préside à cet acte de reconnaissance. Il y a une donnée antérieure, il y a un contenu à la relation dont les hommes sont le terme. Et ce contenu nous est absolument commun, il est universel. Donc ça va fonder immédiatement la communauté de tous les hommes entre eux. Et cette communauté ne s'atteint que dans cette mystérieuse divinité qui pour nous est ce qui parle. Comme disait Lacan, ça parle, mais ce « ça », eh bien c'est précisément la divinité dont on ne sait rien pour l'instant, sauf « ça » qui est capital, qui est lumineux.
Dans le prologue de Saint Jean, on nous dit aussi que la vie était la lumière des hommes.
La vie était la lumière des hommes. Donc nous allons comprendre tous ces textes, mais vous voyez que c'est contenu dans cette première phrase. Et Dieu dit, Vayomer Elohim, Yoi Or, Vayoi Or. Et comme vous disiez tout à l'heure, il y a cette compréhension du texte, est tellement interne au texte, en quelque sorte, qu'elle a été transcrite, consciemment ou inconsciemment, je n'en sais rien, mais dans la tradition targumique. C'est-à-dire, vous savez que du temps de Jésus, on lisait le texte en hébreu à voix basse et on le proclamait à voix haute en araméen, c'est-à-dire en syriaque local, pour les gens qui ne comprenaient plus l'hébreu. Alors, comment on traduisait au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide. Tout le monde connaît ce texte par cœur. En araméen, je vous le dis en français quand même, ça donne, dès le commencement, la parole de Yod et Vavé, avec sagesse, créa et acheva les cieux et la terre. Vous voyez la transposition. On pourrait entendre presque l'évangile de Jean. En arché, en hologos, kaiologos, en proston theon. Au commencement était le Verbe et le Verbe était près de Dieu. Voilà. La terre était déserte et chaotique, privée d'hommes et de bêtes, vide de toute culture de plantes et d'arbres. L'obscurité s'étendait sur la face de l'abîme et un esprit d'amour de devant Yod et Vavé soufflait sur la face des eaux. La parole de Yod et Vavé dit qu'il y ait de la lumière. Donc vous voyez, le qu'il y ait de la lumière est attribué à la parole de Dieu. Mais parce qu'effectivement c'est la parole de Dieu. Et il y eut de la lumière selon la décision de sa parole. Et il apparut devant Yod et Vavé que la lumière était bonne, et la parole de Yod et Vavé sépara la lumière des ténèbres. La parole de Yod et Vavé appela la lumière jour et les ténèbres et les appela nuit. Alors nous allons commenter cela ensuite. C'est-à-dire, pourquoi changer de vocabulaire? Ah bon, il y a la lumière et les ténèbres, et puis tout c'est à peine créé qu'on leur change le nom. Pourquoi? Eh bien, c'est un mystère que nous explorerons la prochaine fois.
Merci beaucoup Jean-François. C'est tout à fait passionnant, je crois, d'entrer dans ce texte fondateur et de comprendre que Dieu nous parle et voilà, puissions-nous écouter cette parole et puis la vivre aussi entre nous. Merci beaucoup Jean-François.
Merci Père Éric.
À très bientôt.